Bonjour mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre, s'il vous plaît, dans 1 Timothée. Nous allons poursuivre ce que nous avons abordé dimanche dernier, à savoir ce sujet qui est l'apostasie. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3. J'aurai certainement l'occasion de vous donner des lectures que vous pourrez noter, car il n'est pas possible de les méditer toutes, mais vous pouvez, vous, les noter et vous édifiez vous-même, comme Jude nous l'enseigne, sur votre très sainte foi. Ça, c'est un verset qu'on devrait quand même prendre avec beaucoup de sérieux. C'est dans Jude, le verset 20. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La foi que Dieu veut que vous utilisiez, vous l'avez reçue. Dieu a dit qu'on avait tous reçu une mesure de foi. Donc ne dites pas « je n'ai pas la foi ». Ce n'est pas vrai, c'est que vous ne voulez pas l'utiliser. Si Dieu vous demande de marcher par la foi, laissez-moi vous dire qu'il vous a donné la foi que vous avez à utiliser. Donc je vous donnerai des textes, on ne pourra pas tous les lire, mais je vous en donnerai quelques-uns au fur et à mesure de cette prédication que vous pourrez peut-être noter sans que vous ayez besoin de mes explications. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà ce que Dieu demande à un jeune pasteur, de faire en sorte que de ne pas enseigner d'autres doctrines. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, verset 1er, il est dit que dans les derniers temps, c'est le Saint-Esprit qui l'affirme. C'est dit d'une manière très péremptoire. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On pourrait lire un autre texte, on n'a que l'embarras du choix par rapport à ce sujet, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. J'ai pris ce verset parce qu'il correspond à la conclusion, en fin de compte, qu'on aura tout à l'heure. De Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a énormément de textes sur ce qui est pernicieux, ce qui est mauvais et qui devrait être rejeté. Mais si on ne connaît pas la Bible, c'est clair que ça va être difficile. De Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous. Vous voyez comment le levain s'est introduit. De faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voyez le but. Le but c'est ça, c'est de l'enrichissement personnel. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je vous encourage d'ailleurs à lire toute cette deuxième épître. Donc, nous pourrions... je vais vous les donner. J'aimerais, mes frères et sœurs... Mais on va le lire quand même, ce verset, dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Parce que je ne sais pas si les chrétiens sont tous sérieux avec certains versets. Regardez ce verset. Je vous l'ai cité en introduction. Je pense que c'est bien qu'on le lise. Jude, verset 20. C'est facile à retenir. Jude, 20. Vous voyez, c'est comme ça moi que j'apprends les versets. Vous vous demandez pourquoi j'en connais tant, mais c'est comme ça. J'ai tout plein de milliers de repères comme ça. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il n'est pas beau ce verset? Vous pouvez dire oui, mais moi, mon pasteur, mon église, mon mari, mes enfants, édifiez-vous vous-même. Parfois, les chrétiens sont malheureux parce que dans telle église, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela. Mais d'accord. mais vous pouvez vous édifier vous-même. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dernière, à part une introduction. L'apostasie s'est infiltrée dès le début de l'Église. J'avais expliqué que Jésus compare l'Église à une femme qui prend du levain et qui le met dans la farine. Et ce levain, il fermente, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. C'est vraiment l'image de ce que l'Église n'a pas suffisamment veillé et qu'elle a laissé des choses s'introduire qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. C'est comme ça. Ça s'aggrave, ça s'accélère, et beaucoup de chrétiens n'y voient rien. Ça, c'est le vrai drame. Alors, c'est vrai qu'à l'église de la fin des temps, la dernière église citée dans l'Apocalypse, qui est l'église de l'Odyssée, Jésus a dit à cette église, « Tu ne sais pas que tu es aveugle. » Lorsqu'on tolère certaines choses et qu'on en arrive à les accepter, eh bien, on finit par mettre Jésus dehors. Alors, j'avais parlé de l'indifférence. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, ne le lisez pas. Les gens seront insensibles, les gens seront indifférents, ils écouteront, mais en vérité, ça ne les préoccupe pas. Eux, ils ont besoin de bénédiction, ils veulent la grâce, ils veulent la bonté de Dieu, mais après le reste, c'est secondaire. De l'indifférence, l'ignorance, on l'a vu, j'avais pris un texte sur les dons spirituels, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. On doit vérifier si quelque chose qui a été dit est biblique, et puis même prier pour avoir les dons spirituels. Est-ce que vous en faites un sujet de prière? Est-ce que vous priez tous pour exercer les dons spirituels? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je veux que tous vous prophétisiez. Est-ce que c'est écrit? Donc, vous voyez, c'est pas de l'orgueil, de la prétention. On dit, mais Seigneur, je voudrais exercer les dons spirituels. Puis c'est écrit. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu veut. Dans une église, tout le monde, tous les chrétiens, je parle. Tous les chrétiens pourraient prophétiser. Oui ou non? Oui, c'est biblique. Et vous devez justement me vérifier si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique. Le manque de conviction. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune conviction. Il y a des chrétiens, ils vont dans une église, ils entendent quelque chose. Ah, c'était bien. Le gars, il a dit Alléluia toutes les 3 minutes, donc c'était spirituel. Il va dans une autre église, il entend quelque chose qui est différent. Je sais de ce quoi je parle. Et les gens vont dire Amen. Ils n'ont pas de conviction, alors que la Bible dit que chacun a en son esprit une pleine conviction. Par le manque de sérieux. Les gens ne lisent pas la Bible, ils viennent à l'église, ils n'amènent pas la parole de Dieu, ils ne vérifient pas. Vous vous rappelez les chrétiens de Béret qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui pourtant, je peux vous assurer, étaient agréés aux yeux de Dieu, les chrétiens de Thessalonique. Eh bien, Dieu dit qu'il y avait des chrétiens meilleurs encore que ceux de Thessalonique, ceux de Béret qui examinaient dans les Écritures et qui vérifiaient chaque jour ce que Paul disait. Il y a des gens, mais je vous assure, pourquoi il y a des gens qui se sont fait piéger et avoir? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier, c'est ce qui est biblique. Hier, il y a une personne qui m'écrivait pour me dire que dans l'église où elle était, écoutez bien, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Les gens commandent aux anges parce que le pasteur leur a dit que les anges étaient nos serviteurs. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que les anges sont nos serviteurs? Non, la Bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 18 que lorsque nous sommes chrétiens, les enfants, lorsqu'on les présente à Dieu, les anges les gardent. Vous le croyez? Mais les anges ne sont pas nos serviteurs. Heureusement, je ne vous dis pas le bazar que ça serait. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais les chrétiens demandent aux anges de faire ceci, de faire cela. Mais parce que les chrétiens, vous voyez, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Quand on connaît la parole de Dieu, n'importe quel ancien dans l'église devrait se lever et dire « Pasteur, mais pasteur, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y a aucun texte dans la Bible où il est dit que les anges sont nos serviteurs. » Et il y a des églises entières, les églises du royaume maintenant, qui tolèrent ces choses. Que quelqu'un se fasse piéger les premiers mois de sa conversion. Mais laissez-moi vous dire que celui qui cherche, il trouvera. La Bible est catégorique. Celui qui me cherche, il me trouve. Alors on pourrait multiplier les exemples. C'est pour rappeler ce que j'ai dit dimanche pour aller plus loin aujourd'hui. Et toutes ces idées libérales, je viens d'en parler, d'en citer une, c'est rentré dans les églises et c'est appelé quand même, on l'a lu dans 1 Timothée chapitre 4, des doctrines de démons. On le relit. C'est pour vous expliquer, peut-être que vous n'avez pas fait attention tout à l'heure. Je voudrais vraiment que vous vous arrêtiez sur... Il y a des gens, ils lisent pour lire. Une fois à la sortie, il y a une dame qui m'a dit, je lis la Bible parce que comme des fois vous me demandez si vous lisez la Bible, je la lis au cas où vous me demanderiez si je l'ai lue. Alors depuis, je ne demande plus. Parce que je ne voudrais pas... C'est ridicule que les gens lisent la Bible au cas où le pasteur leur demanderait s'ils ont lu la Bible. Ça ne tient pas debout. Mais regardez 1 Timothée chapitre 4, la fin du verset, il nous est dit que dans les derniers jours, dans l'église du Seigneur, s'infiltreraient des doctrines de démons. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous calculez un peu l'affaire. Dans l'église du Seigneur, s'infiltreraient des doctrines qui viennent droit de l'enfer. La théologie du royaume maintenant, c'est exactement ça. Le mouvement homosexuel qui est en train de s'infiltrer dans les églises, au nom de la tolérance, je vais l'expliquer, la prospérité, la santé parfaite, moi je crois que Dieu donne la santé, mais on peut rester malade toute sa vie. C'est pas forcément grave que Dieu ne guérisse pas quelqu'un, il ne faut pas non plus faire une obsession. Moi je crois à la guérison, je prie pour M. Delabre qui va beaucoup mieux. Elle n'est pas là, Madame Delabre ? Si. Moi, je prie pour Monsieur Delabre tous les jours. D'ailleurs, il faudra penser à régler l'annonce des prières, Madame Delabre. Hein ? Au fait, est-ce qu'il faut payer les prières ? Est-ce qu'il faut les faire payer ? Eh bien sûr que non. Mais est-ce qu'on prie pour que les gens guérissent ? Mais bien sûr. Mais Dieu peut ne pas guérir. Et il y a certaines doctrines qui culpabilisent les gens. Si quelqu'un n'est pas guéri, eh bien le problème, c'est que la culpabilité finit par nous étouffer et par nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que les gens abandonnent la foi. L'apostasie est le plus grand danger pour l'Église. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'un pasteur qui m'expliquait que dans un certain pays du Maghreb, ils ont voté une loi, le gouvernement a voté une loi anti-conversion. C'est-à-dire que les chrétiens, les gens n'ont pas le droit de se convertir à la chrétienté. Alors on peut poser la question, c'est peut-être des questions de pasteur, ça, de pastoral. Mais est-ce qu'il faut avoir peur des lois du monde ? Est-ce qu'il faut avoir peur des sectes ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sectes ? Oui. Lisez-le avec moi. On va prendre le temps ce matin. Je voudrais que vous notiez ces textes pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne sont pas si graves que ça. Parce qu'en fin de compte, elles servent de révélateurs. 1 Corinthiens, chapitre 11. Mes frères et sœurs, lisez la Bible. Moi, je vous assure, quand un nouveau ne comprend pas, ça ne me gêne pas. Quand quelqu'un a 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion qui patauge, je comprends. Mais quand des chrétiens de 20 ans de conversion posent des questions qu'un enfant poserait, qu'un adulte poserait à la place d'un enfant au CP, c'est quand même inquiétant. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 18. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient aussi comme tels au milieu de vous. Vous voyez, il faut, c'est un impératif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fin de compte, les gens se positionnent. On se positionne par rapport à la parole de Dieu. Et dans une église où on ne se positionne pas par rapport à la parole de Dieu, c'est l'anarchie. On doit tous avoir la même pensée, la même idée, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, les lois du monde... Que le gouvernement nous interdise ceci ou cela, je ne sais pas si c'est grave. C'est pas ça qui empêchera le Saint-Esprit d'agir, croyez-moi. Mais par contre, lorsque l'apostasie rentre dans les églises, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose de grave. Et pourquoi des doctrines de démons ont-elles pu s'infiltrer dans l'église ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a réussi à mettre Jésus dehors. Parce que laissez-moi vous dire, quand dans une église où le Seigneur Jésus est présent, où le Saint-Esprit agit, laissez-moi vous dire que normalement les doctrines de démons ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas possible, vous comprenez ? Mais vous savez ce qui se passe dans l'église de l'Apocalypse, de l'Odyssée ? Il est dit, je me tiens à la porte. Pourquoi ? Parce qu'on a chassé la vérité, Jésus étant la vérité, donc il n'est pas difficile à comprendre que lorsqu'on a réussi à rejeter la parole... Eh bien, le diable a les mains libres pour infiltrer des doctrines de démons que l'on voit aujourd'hui dans le corps de Christ, et même dans nos assemblées, ce qui est un véritable drame, parce qu'on n'a pas veillé. Vous verrez que la conclusion, ça revient toujours à une parole très simple du Seigneur Jésus, « Veillez afin de paraître debout ». Le chandelier, vous vous rappelez la première église ? Jésus dit « Si tu ne veilles pas, j'ôterai le chandelier ». Le chandelier, c'est Jésus, quand il était sur la terre. À partir du moment où Jésus est remonté au ciel, le chandelier, c'est qui ? C'est nous. Vous êtes la lumière du monde. Alors aujourd'hui, on est dans une confusion pas possible. Moi, je vous assure, Dieu permet, je pense que Dieu permet, que je reçoive toutes les semaines, par rapport aux prédications, des mails de personnes qui sont sorties de ces milieux, vraiment apostats, mais complètement apostats, complètement sectaires, avec des choses pernicieuses, comme on vient de le dire, parce que je crois que le chrétien qui cherche, Dieu le conduira. Vous le croyez, ça ? Croyez-moi, Dieu ne va pas laisser quelqu'un qui cherche vraiment la vérité dans l'erreur. Je peux vous dire que si ce soir à Toulouse, il y a un témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, ils sont très très loin de la parole. Si un témoin de Jéhovah qui ne croit pas que Jésus est Dieu se met à chercher la vérité, je peux vous dire que demain, il appartiendra au Seigneur. Parce que, est-ce qu'on est meilleur que les autres ? Mes frères et sœurs, on n'est pas meilleur. De toute façon, le problème, il n'est pas là. Dieu répond à la foi. Et quand on respecte la parole, Dieu nous garde. Alors, aujourd'hui, le mot d'ordre, alors c'est sûr, ça fait super fun. Ça fait la tolérance, l'unité, l'amour. Alors, tout ça, ce sont des expressions bibliques. Alors, mais il faut voir. Alors, le texte qui est le plus souvent utilisé, c'est le texte de Jean, chapitre 17. Vous savez, Jésus, avant de mourir, il exprime certaines choses. Il parle justement d'unité. Est-ce que Dieu veut que l'on soit unis ? Et bien sûr. Alors, vous connaissez ce texte, hein ? Alors, c'est le texte favori qui est utilisé dans l'œcuménisme. Jean chapitre 17. Jésus exprime, c'est une prière que l'apôtre Jean a entendue et que le Saint-Esprit va réutiliser pour mettre dans le canon des Écritures. Alors, regardez, verset 21. Ce sont des choses solennelles, ce sont des choses que Jésus a utilisées, a dites. C'est sa volonté, il exprime sa volonté. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Oui, c'est beau ça, non ? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Ah, mais il faut lire la suite. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Quand on voit cette prière du Seigneur Jésus, vous comprenez bien qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières. Et aujourd'hui, au nom de l'unité, même voyez, au nom de l'unité, on introduit la culture dans l'Église. Dans les églises, il y a de plus en plus d'Africains, ce qui est bien, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ombrage. Donc, il faut introduire la culture. Et souvent, il y a des cultes, c'est la culture qui apparaît dans l'Église. Oh, c'était formidable. Les Africains, ils ont chanté dans leur langue, etc., avec leurs costumes traditionnels, etc. Oh, c'était formidable ce matin. Il y a une sœur qui est venue, une Africaine. Dernièrement, il y a une collègue à elle qui lui a dit, mais tu vas dans l'église des Blancs. Et quand j'ai dit, mais il n'y a pas d'église de Blancs. Il n'y a pas d'église de Noirs. C'est l'église du Seigneur Jésus. Mais c'est révélateur. Parce que les gens cherchent une église en fonction de leur culture. Il n'y a pas une Bible pour les Africains, il n'y a pas une Bible pour les Pékinois, une Bible pour les Burundais, il y a une Bible pour les Français, il y a une Bible pour tout le monde. Et vous voyez, c'est vicieux ça. Mais c'est sentimental. C'est sentimental, ça plaît, oh, c'était chouette. Mais on vient pas pour que les choses soient chouettes. On vient pour élever la piété. On vient pour développer une véritable piété. Tant mieux s'il y a des choses chouettes. Mais c'est pas le problème, il n'est pas là. On ne vient pas pour qu'il y ait des choses chouettes dans l'Église. Mes frères et sœurs, on vient parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'Église de blanc. Vous voyez, ces gens qui recherchent. Si vous cherchez une Église par rapport à une ethnie, vous êtes déjà sur une mauvaise voie. Vous devez chercher une Église où on prêche la parole. Mais c'est grave. Mais voyez, les gens, ils ne font même pas gaffe à ça. Ils sont tellement perdus dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Tout est fait pour mettre des sentiments. Pour que les sentiments prennent le dessus. D'ailleurs, le cantique qu'on a chanté là, avant la chorale, non, il n'existe pas. Non. Il faut écouter, il faut vérifier tout ce qui est dit. Regardez, vous allez me dire que je pinaille. Mais tant pis. Voyez, quand il est dit, je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Eh bien, voyez, si on avait été plus profond, on n'aurait pas dit je me sens aimé. On aurait dit je me sais aimé. Parce que se sentir aimé, on peut dire, tu te sens aimé ? Je ne sais rien, moi. Mais Dieu vous aime. Ce n'est pas une question de se sentir aimé. La Bible est catégorique. Il faut que vous sachiez que Dieu vous aime. Et comme, voyez, vous allez me dire, oh là, il va tout changer. Non, ne vous inquiétez pas. Mais mes frères et sœurs, c'est une erreur. Vous vous sentez aimé ou vous vous savez aimé? On est aimé. Et comme les gens, voyez, vivent de plus en plus dans le sentimental, ça leur convient. Alors, c'est vrai qu'il n'y a qu'un mot dans ce cantique, mais il y a beaucoup de cantiques, croyez-moi, qui devraient être corrigés. Je prends un exemple. Mais parce que moi, c'est mon souci, je vois tellement de gens perdre la foi, abandonner la foi. En plus, il y a des prophéties. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, ce n'est pas que la perversion morale, c'est aussi la perversité spirituelle. Quand Jésus reproche aux apôtres qui n'ont pas pu guérir quelqu'un, quand il dit « mes races incrédules et perverses », ils n'étaient pas pervers sexuellement, ils étaient pervers, il y avait une perversité spirituelle, quelque chose de travers. Et si nous ne veillons pas, nous nous ferons avoir. Je parlais de la culture, vous voyez où j'en suis arrivé. Et puis on tolère tout au nom de ce texte que l'on vient de lire. Et c'est pas une... Bien sûr que la tolérance, c'est un mot qui plaît aujourd'hui, mais il faut faire la différence entre la tolérance mondaine et ça n'a rien à voir avec l'amour réel de la vérité. Il y a quand même un petit gouffre entre les deux. La tolérance, c'est bien. Mais si quelque chose n'est pas biblique, est-ce qu'on peut prier avec tout le monde? Tiens, est-ce qu'on peut prier avec tout le monde? Attention, hein, la question elle est un peu floue, c'est vrai. Est-ce qu'on peut prier avec tout le monde? Est-ce qu'on peut prier avec les gens qui prient les idoles? Non, mais ne riez pas, parce que c'est une affaire archi grave. Des gens ne seront pas prêts quand Jésus va revenir à cause de cette négligence. C'est beaucoup plus pernicieux, puisque c'est écrit dans la Bible, que ce que l'on pense. C'est beaucoup plus grave et sévère que ce que l'on peut croire. C'est des doctrines de démons. Ça vient de l'enfer. Et croyez-moi, en l'enfer, il y a un spécialiste. Et qu'on doit prendre ces choses avec beaucoup de sérieux. Et si dans les églises on avait été sérieux, je peux vous dire que le corps de Christ, toute dénomination confondue, n'en serait pas là aujourd'hui. L'esprit de tolérance par rapport à l'œcuménisme, au nom de l'amour et de l'unité. Voilà, ça c'est le principal responsable de l'abandon de la foi dans les églises. Parce qu'au nom de l'unité, on prie avec les catholiques. Alors, moi j'aime les catholiques, je suis un ancien catholique, je veux dire. Mais quand on est catholique, on prie pour la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut prier la Vierge Marie? Moi, vous savez, quand je me suis converti, à une semaine, humblement, j'ai lu, parce qu'il y a des gens qui disent, mais c'est pas vrai, Marie, c'était la Sainte Vierge. Oui, elle était Vierge. Elle était Vierge. Quand elle a enfanté Jésus, elle était Vierge. Oui. Mais est-ce qu'elle réclame que Dieu soit son sauveur? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où? C'est bien, Madame Chapeau. Enfin, pour une fois, Madame Chapeau ne s'est pas trompée. Mais on va le lire. Mais regardez. C'est bien, je plaisante, hein, Madame Chapeau. Je plaisante. Je veux pas d'histoire. Comment? Madame Chapeau, elle fait comme les habitants de Béret. Vous voyez, elle vérifie. Alors, Luc, regarde. Non, mais c'est bien. Il faut savoir. Parce qu'il y a des gens qui disent, si. Mais oui, mais quand vous lisez ce qu'on appelle le Magnificat, dans toutes les églises du monde, il y a un cantique qu'on appelle le Magnificat, c'est le cantique de Marie. Mais regardez ce qu'elle dit. C'est comme ça, c'est pour ça que je vous encourage à prendre votre Bible, à noter, peut-être que demain vous rencontrerez un catholique à qui vous pourrez le lui dire. C'est pas ce que vous pensez qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et cette femme, Marie, Luc 1, verset 46, regardez ce qu'elle dit. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Si elle accepte Dieu comme sauveur, c'est qu'elle se reconnaît comme une pécheresse. Parce que tous les hommes ont péché, tous, Moïse, l'apôtre Paul, et tous les grands hommes de Dieu sont tous des pécheurs. Le seul qui n'est pas péché, c'est Jésus-Christ. Sinon, il n'aurait pas pu nous sauver. Voyez, ce sont des choses qu'il faut savoir. Lisez-le, apprenez-le par cœur. On ne peut pas prier avec des gens qui prient les idoles. Ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas de l'amour, c'est un compromis. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 5. Mes frères et sœurs, vous savez, on est dans des temps très difficiles. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. On peut vivre dans la grâce, dans la paix, chaque jour, croyez-moi. Mais regardez, 1 Corinthiens chapitre 5. C'est des questions qui sont embarrassantes. Mais justement, si on aime les gens, est-ce que vous aimez les catholiques? Est-ce que vous les aimez? Bien sûr. Mais on doit aimer tout le monde d'ailleurs. On doit même nos ennemis. Est-ce que c'est écrit, aimez vos ennemis? Ben oui, on doit les aimer. On ne va pas leur sauter au cou, leur faire des bisous. Ça veut dire, les aimer, ça veut dire, on prie pour eux. C'est ça, on ne va pas jouer les hypocrites non plus. Aimer, c'est, voilà. Donc, il faut aimer les gens. Ce n'est pas un problème d'amour, d'affection. On aime tous les gens, quel que soit le péché dans lequel ils se trouvent. Mais on ne peut pas approuver certaines choses. 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait un gros problème d'immoralité là, dans l'église de Corinthe. Et le problème était double parce que non seulement il y avait un gars qui vivait vraiment dans l'immoralité, mais les anciens ne disaient rien. Les anciens ou l'église, mais surtout les anciens, ils auraient dû réagir. Alors regardez, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. » Alors, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Bien sûr que si vous travaillez avec des débauchés dans le monde, ne partez pas de votre travail demain. Non mais il y a des gens, ils sont tellement tordus. Ils interprètent tout n'importe quoi. Si vous travaillez qu'avec des pêcheurs, si vous travaillez avec des lesbiennes, j'en sais rien. Au contraire, vous devez être une source de bénédiction. Oui ou non? Et bien sûr, et ne pas les mépriser. Au contraire, on peut avoir est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour ces gens? Mais bien sûr qu'on n'aime pas l'homosexualité. Mais est-ce qu'on peut aimer un homosexuel? Dans le sens de dire, on a de l'affection pour lui. On veut rendre un bon témoignage. Dans l'église de Corinthe, il y en avait. Regardez juste après. Il en parle. Ne vous y trompez pas. 6 fois ou 7 fois, il dit, ne vous trompez pas, ne savez-vous pas? Voyez, 1 Corinthiens 6, verset 9, oui, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, etc. Et verset 11, et c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. Dieu a béni ces gens, ils ont été évangélisés, ils ont été accueillis. Mais mes frères et sœurs, regardez, on reprend le verset 10. Alors, non avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Ah, c'est clair qu'alors là, si vous ne pas avoir de contact avec les personnes immorales, je peux vous dire que demain, vous ne sortez pas de chez vous. Maintenant, mais c'est ça mes frères et sœurs qui est sérieux, autant il faut avoir de la compassion pour les gens qui sont dans le péché, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, mais ça va plus loin que la prière, de ne même pas manger avec un tel homme. Alors quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que c'est ce mépris? Mais non, mais vous allez où? Vous vous rendez compte? Comment le gagner? Eh bien justement, quelqu'un qui se dit frère, il faut lui faire comprendre qu'il y a une distance. Après, il faut l'aimer, puisque la Bible dit que si on met quelqu'un en discipline, il faut le considérer comment? Comment il faut le considérer, quelqu'un comme indiscipliné? Comme un païen. Est-ce qu'il faut aimer les païens? Mais vous comprenez l'intelligence. Mais on ne peut pas prier avec des gens idolâtres. Ah non, moi je prie avec les catholiques, on est unis, mais ils prient les morts. Alors il faut prier pour eux. Moi je prie tous les jours pour l'église catholique. Tous les jours. Je prie pour les évêques. Vous avez entendu ce qu'un évêque a dit il y a 15 jours? Que la pédophilie, ce n'était pas un péché. Ça fait pitié. C'est déjà, ils sont aveuglés. On n'a pas à le juger, bien sûr que c'est grave. Mais c'est ça, les doctrines de démons. Pourquoi, je le répète, pourquoi ces doctrines de l'enfer? Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Sont entrées dans le royaume de Dieu, eh bien, parce qu'on a mis Jésus dehors. Quand on met Jésus à sa place, je peux vous dire que les démons, ils n'ont rien à faire dans une église. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié dans l'Église. Et que si quelqu'un est dans le péché, il faut le reprendre. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Voilà. S'il t'écoute, tu as gagné. Le but, alors écoutez bien, pour ceux qui découvrent l'Évangile, croyez-moi, le but c'est que le nom du Seigneur soit sanctifié. Le but c'est de gagner les gens. Mais nous ne gagnerons personne avec de la tolérance bidouillée, avec de la tolérance mondaine. Nous gagnerons les gens avec l'amour de la vérité. Il faut que les gens dans une église, ils entendent la vérité. Ça leur plaît, ça leur plaît pas. Parce que les gens du monde ont vite fait de dire, ouais, les pasteurs, les curés, tous ces gens, c'est des hypocrites. Ils ont raison à 99%. Et ils sont furieux quand ils entendent un truc qui est complètement incohérent.
Ils vont entendre un pasteur ou un prêtre, tout le monde est sauvé, tout le monde va aller au ciel. Ils vont dire, mais quels hypocrites. Mais dites-leur que s'ils n'ont pas accepté Jésus, ils vont aller en enfer, ils vont être encore plus furieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est une question de vérité. Alors, moi je ne sais pas ce que vous en faites de ce que je vous dis. Mais laissez-moi vous dire qu'on ne rigole pas avec la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas un bouquin. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et il veut que ces choses soient maintenues. C'est le seul moyen de chasser l'apostasie de l'Église. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas? Moi, franchement, je vais vous dire, ça m'est entièrement égal. Parce que je rendrai compte à Dieu pour les prédications et pas pour vos réactions. Mais une chose est sûre, si vous voulez aller au ciel et si vous voulez être prêt, il ne vous faut pas tomber dans ces sectes pernicieuses, dans toutes ces choses que l'apôtre dénonce. Oui, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Est-ce qu'on peut être dans une église où on n'est pas enseigné? Mais oui, moi je reçois toutes les semaines des mails de gens qui me disent, vous voyez, l'autre jour, il y a une chrétienne qui m'a écrit, elle se posait des questions qu'après l'enlèvement, on ne pouvait pas être sauvé. Le pasteur de son église leur disait, après l'enlèvement, on ne peut pas être sauvé. Et moi, justement, j'avais fait une prédication sur le fait qu'après l'enlèvement, on pourrait être sauvé, mais il n'y aura plus la grâce de Dieu. Il n'y aura plus la possibilité d'être sauvé par la repentance. Et qu'il faudra donner sa vie. Parce qu'il y aura un gouvernement mondial totalitaire qui imposera certaines choses et les gens seront décapités s'ils refusent la marque de la bête. Il n'y aura plus la notion de la grâce. Aujourd'hui, pour aller au ciel, il faut vraiment se repentir et se convertir. Et cette femme me remerciait parce que voilà, elle priait, dit, mais est-ce que vraiment les gens de notre famille qui ont rétrogradé après l'enlèvement, c'est fini pour eux? Non. Mais je peux vous dire que ça va chauffer. Il vaut mieux être prêt au premier voyage. Moi, je vous le dis. Parce qu'au second, ça va être dur. Parce que croyez-moi, c'est pas sûr que les gens aient la force de résister s'ils n'ont pas eu la force d'obéir dans la grâce. Le mouvement des signes et des prodiges. En mois de juillet, j'ai reçu un mail sur Internet qu'à Toulouse, il va y avoir un grand rassemblement sur le royaume maintenant, les mouvements des signes et des prodiges. Voilà, vous devez croire au miracle et vous devez surtout donner de l'argent. Donner de l'argent, ça va annuler vos dettes. Donner de l'argent dans une enveloppe, vous mettez voilà, monsieur Gérard Gault, 200 euros. Voilà. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. Et vous donnez. Puis si vous n'êtes pas guéri, ben, le mois prochain, vous donnez un peu plus bien sûr. Mais c'est comme ça que ça marche. Et les gens l'acceptent. Alors je le dis avec un humour noir peut-être, mais c'est grave. Parce que je crois que quand on donne de tout son cœur, comme on l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. On donne sans contrainte. On donne parce qu'on aime donner. Et quand on commence à donner sous la contrainte, je ne sais pas quelle valeur ça a aux yeux de Dieu. C'est grave ces choses. Mais en plus, c'est dommage parce que dès le début de l'évangile, c'est expliqué. Et si les gens ne l'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne le lisent pas. Donc, ce mouvement de signes et de prodiges, faites-y attention. Ça va se propager dans nos grandes villes. Et les gens, bien sûr, qui ont soif de plus avoir de dettes, ben, si vous ne voulez pas avoir de dettes, remboursez-les. Lisez les proverbes et vous comprendrez que quand on a des dettes, eh ben on les rembourse. Et on ne dit pas, ben, il y a un chrétien, il m'a prêté 5000 euros, il a du pognon, c'est pas grave si je ne le rembourse pas. Écoutez-moi, si on vous a prêté de l'argent, remboursez-le. Même si c'est 10 euros par mois, remboursez-le. Vous verrez combien Dieu vous honorera. C'est important ça? Eh oui, c'est important. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et voilà, et on est là et les gens sont dans ces choses pernicieuses. Regardez avec moi dans Acte 20. Mes frères et sœurs, c'est archi grave. On est là-dedans, on y est, c'est pas qu'on va y aller, c'est qu'on y est, ça y est. On y est, et il y a plein de croyants. Alors moi je vous dis que les gens qui cherchent, Dieu les conduira, croyez-moi, dans la vérité. Regardez, Acte 20. Acte 20, alors je crois que c'est au verset 29. Alors, oui, c'est un conseil. Paul parle aux chrétiens. D'ailleurs, je vous avais donné le verset 26 l'autre jour, je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'on dit que dans le Nouveau Testament, on n'est pas responsable du sang des chrétiens, tatati tatata, comme c'était dans l'Ancien Testament. Mais regardez, moi je lis pas ça. Acte 20, verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Vous avez vu? C'est sérieux. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous avoue que c'est ce que je fais. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang, je sais
qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pourquoi ? Pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous voyez, on terminera avec un verset comme ça tout à l'heure. Dieu nous demande de veiller. Veiller, c'est prendre la Bible et dire, tiens, est-ce que la Bible dit ça ? Est-ce que la Bible dénonce ça ? Etc. Nous vivons les derniers temps, mes frères et sœurs. Nous sommes dans ces temps difficiles. Plein de chrétiens abandonnent Dieu. Et le mystère de l'iniquité, comme c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, il agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et ce qui retient le mystère de l'iniquité d'agir pleinement, c'est la présence de l'Église. Et dès que l'Église sera enlevée, l'Antéchrist agira avec encore plus de puissance. Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, Dieu. Vous êtes d'accord ? Mais le diable est puissant. Ça n'a rien à voir entre la toute-puissance de Dieu et la puissance de Satan. Les gens souvent mélangent. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage que les chrétiens comparent Dieu et le diable. C'est vraiment, 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 vraiment dommage. Dieu est tout-puissant. Il sait tout. Le diable, lui, a une certaine puissance que Dieu lui permet d'avoir. Cette puissance, il va l'utiliser pour séduire les gens. Et à partir du moment, on va quand même aller à la fin de 2 Thessaloniciens. À partir du moment où les gens n'obéissent pas, parce que le problème, ce n'est pas d'aller dans une église et de dire, tiens, c'est intéressant, cette étude sur l'apostasie, tiens, oui, j'apprends des choses. Non, non, ce n'est pas comme ça que vous allez être purpré. Ce n'est pas ça, on n'est pas là. Tant mieux s'il y a une autosatisfaction, tant mieux s'il y a un plaisir intellectuel. Le problème, il n'est pas là. Ce qui est important, c'est d'être spirituel. 2 Thessaloniciens chapitre 2, il parle de Paul avertit déjà les chrétiens. Des faux docteurs s'étaient introduits disant que Jésus était déjà revenu, etc. Alors il leur explique que non, que ce n'est pas possible. Il faut que l'apostasie soit arrivée, il faut que l'adversaire vienne. Et mais regardez ce qu'il dit, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors regardez bien la suite. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà le vrai problème. Est-ce que vous aimez la vérité ? Est-ce que vous voulez vivre ce que Dieu enseigne et non pas ce qui vous plaît ? C'est quoi que vous, des choses qui vous plaisent ? La démangeaison, d'entendre des choses agréables. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des églises aujourd'hui, c'est le show. C'est le show. Dernièrement, j'avais été à un rassemblement, il y a un frère qui a vu ma tête, il me dit « qu'est-ce que vous pensez ?» Eh bien, j'ai dit, il manque que Michel Drucker. Et je rigolais pas. Et parce que je voulais qu'il comprenne vite. C'était un show. On n'est pas là pour faire des shows. On est devant Dieu, mes frères et sœurs. Et on veut être prêt quand il va revenir. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui me dise, pourquoi tu nous l'as pas dit ? Parce que c'est comme ça. Pourquoi notre pasteur ne nous l'a pas prêché ? Il le savait, en plus on le sait. Les pasteurs normalement constitués connaissent la Bible, c'est évident. J'espère. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez la suite. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de grave et de sévère. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, les deux mots qui suivent, ça vaut la peine d'y réfléchir. Ils soient condamnés. Alors c'est simple, oui c'est simple, quelqu'un qui voit, il voit. Si vous êtes sur la route, vous voyez, s'il y a un lapin qui est écrasé, vous le voyez de loin, vous l'évitez. Quand on voit ça, c'est bien. Mais à partir du moment, écoutez-moi bien, c'est pas compliqué, à partir du moment où on n'obéit pas à la vérité, où on est plus intéressé par les expériences, les bénédictions. Ah, moi, je voudrais ci, je voudrais là. Oh, j'étais dans une église. Oh, c'était merveilleux. Oh, il y avait des paillettes d'or qui tombaient. Ça existe, ça. Etc., etc. Ah, oh, c'était merveilleux. Ça change de mon église où le pasteur, il est tout le temps en train de nous reprendre. Moi, je me souviens de cette jeune fille qui s'est convertie. Une jeune fille, elle était mignonne comme tout, elle avait 20 ans. Elle s'est convertie ici, vraiment, elle a été délivrée de l'alcool, de la drogue, du péché. Une fille qui, en quelques jours, elle est devenue une princesse. En quelques jours. Et au bout d'un an, elle me dit, Monsieur Gouff, j'ai envie d'aller voir dans une autre église. Je dis, faites attention. Elle revient deux dimanches après, elle me dit, Monsieur Gouff,
Ah ben ça change de vous. Dans l'église où je suis, il y a des fois, il n'y a même pas de prédication. On ne fait que danser. Ah, c'est chouette. Hein. C'est pas comme vous, vous êtes trop raide, monsieur Go. J'ai dit, parce que je vous aime. 6 mois après, un soir, j'étais ici encore. 6 mois après, 8 mois après, le téléphone sonne. Monsieur Go, venez vite. Je suis au Mirail, elle était là pour. Je suis enceinte. Le gars avec qui je suis, un chrétien de l'église qui l'a mis enceinte, bien entendu. Je suis là, il m'a frappé, je suis malheureuse. Venez me chercher, monsieur Go. Alors j'ai vite trouvé une chrétienne pour l'accueillir. Si vous saviez comment ça s'est terminé. Mes frères et sœurs, c'est nos enfants aussi. Les jeunes, moi, vous êtes mes enfants. C'est pas vrai, les anciens. Les jeunes, vous êtes nos enfants. Et quand on est sévère, c'est pas pour être dur, c'est pour vous protéger. Et les paroles de Dieu, elles sont là pour nous protéger, mes frères et sœurs. Et la puissance du diable, elle se manifestera avec d'autant plus de facilité dans le corps de Christ, enfin le corps de Christ, ce qui reste du corps de Christ. Puisque Jésus est mis dehors. Et dans une église où il n'y a plus de conviction de péché, moi je suis catégorique aujourd'hui. Peut-être un peu trop, vous me pardonnerez. Dans une église où il n'y a plus de conviction de péché, c'est que Jésus, il est dehors. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais ça tient debout ce que je dis. Si le Saint-Esprit est là, les gens vont être convaincus de péché. Si la présence de Jésus est là, les gens disent, mais c'est vrai, ce qu'il dit, qu'ils le disent bien ou mal, ce n'est pas important, mais c'est la parole de Dieu. Et si vous n'aimez pas la vérité, si vous êtes plus friand des expériences et des bénédictions que de l'amour de la vérité, vous vous ferez piéger. Nous, nous ferons piéger. C'est écrit, 1 Thessaloniciens 10, ils seront complètement séduits. C'est écrit, ils seront complètement séduits. C'est grave, mes frères et sœurs. Comme Pharaon, vous rappelez Pharaon ? Vous vous rappelez Pharaon ? Est-ce que Pharaon aurait pu se convertir ? Eh oui. Pharaon, à plusieurs reprises, il aurait eu l'opportunité de se convertir. Mais il est dit, vous le lirez, Exode 5, à partir d'Exode 5. Lisez-le. Et vous regardez comment Pharaon a décidé de s'endurcir. Et plusieurs fois, il est dit qu'il s'est endurci. Monsieur n'a pas voulu, parce que monsieur, comme nous, était libre. Il est libre. Vous êtes libre d'accepter, de rejeter. Vous pouvez aller au ciel, vous pouvez aller en enfer. C'est vous qui choisissez. Dieu a déjà choisi, comme un gars me disait, oh, Dieu choisira pour moi. J'ai dit, écoutez, quand Jésus est mort sur la croix, je pense qu'il a déjà choisi où il vous voulait. Alors c'est à vous de choisir maintenant. Et on n'a pas à forcer personne. Mes frères et sœurs, on est sérieux. Pharaon, il s'est endurci. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est Dieu qui a endurci son cœur. Vous le méditerez. Vous savez, hier soir, j'étais travaillé par un texte de Jean 8, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, c'est Jésus qui parle, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8 et quelques. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, ben, il fait ce qu'il veut. Et vous ne voulez pas la vérité ? J'abrège. Vous ne voulez pas la vérité, et bien vous aimerez le mensonge. Les gens, ils choisissent, consciemment ou inconsciemment, dès qu'il y a quelque chose qui est flagrant, comme quand il y a eu Charlie Hebdo, quand il y a eu le Bataclan, tout ça, des choses graves. Que vous le vouliez ou non, les gens se positionnent, consciemment ou inconsciemment. Et ça donne des résultats graves. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille. On voit bien que Dieu, moi ça, j'aurais jamais pu le dire. Comme c'est Jésus qui le dit, je le dis. Si vous voulez vous souiller, ben souillez-vous. Si vous voulez vivre dans le péché, parce que des fois les gens, oui, vous nous mettez la pression, vous voulez qu'on se convertisse. Non, Dieu veut que vous vous convertissiez. Comme l'autre jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, monsieur Go, priez pour que je me convertisse. Non, je lui ai dit, il me regarde, il a dû se dire, monsieur Go, il ne va pas bien en ce moment. Non, j'ai dit, convertissez-vous. Vous voyez, mais est-ce que dans la Bible, il dit, on va prier pour que vous vous convertissiez, ou est-ce que les apôtres disent, convertissez-vous? Et vous voyez, c'est ça le sentimental. On est là, on attend. Bien sûr qu'on peut dire aux gens, je vais prier pour que vous donniez votre cœur à Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est claire. Convertissez-vous. Si vous écoutez l'évangile, c'est vous qui devez vous convertir. C'est vous qui vous convertirez. Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un, nous? Non. Moi, si je pouvais, je le ferais. Si on me disait, tu étrangles quelqu'un, il va se convertir. Je les étrangle. J'étrangle tous les Toulousains. Je serai vite en prison, mais ça ne fait rien. J'en étranglerai au moins deux ou trois. Et non, c'est chacun qui choisit de se convertir.
Alors maintenant, on va terminer. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que là, on ne va pas rire. C'est archi grave. Pour comprendre cette affaire de 2 Thessaloniciens, le mieux, je me suis posé la question, mais comment comprendre? Parce que la conclusion, elle est grave. Vous avez lu dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait de véritables prophètes. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Ça, vous ne l'entendrez pas souvent. Dans l'Ancien Testament, bon, vous l'avez lu sans y faire attention, mais moi, je suis obligé d'y faire attention. Si je veux développer ce sujet, j'ai passé une semaine à préparer ce sujet. Une semaine entière. Je l'ai fait dans la prière, je l'ai fait avec souci de ce que les chrétiens ne se fassent pas piéger. Dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait un prophète, un vrai prophète, pour mettre le peuple en garde contre telle ou telle chose. Mais ce qui arrivait souvent, hélas, c'est que le peuple rejeter les vrais prophètes. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, on va lire un. J'en ai mis deux textes, 1 Roi 22. Ce sont des choses, vous savez, les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, elles ont été écrites pour nous servir d'exemple. 1 Roi, chapitre 22. C'est sûr, ce n'est pas des choses que vous entendrez souvent, ça c'est clair. Mais ça vaut quand même la peine de lire ces choses. Vous savez, moi, ça paraît simple pour vous, là. Mais ça fait, j'y passe des semaines entières, mes frères et sœurs, dessus. Parce que je comprends que ce n'est pas évident. Hein. Alors, vous lirez le contexte. Alors, on va lire la conclusion, parce que l'heure tourne, on n'a pas le temps de tout lire. Mais regardez la conclusion. Dieu a envoyé des prophètes, ils n'écoutent pas. Regardez bien. Alors, verset 18. 1 Roi, chapitre 22, verset 18. On va lire le verset du verset 17. Miché, lui, il disait les choses. Ça ne l'a pas aidé. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Juste avant, il y avait les faux prophètes qui avaient dit que tout allait bien, bien sûr. « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, ils ne prophétisent que rien de bon, ils ne prophétisent que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Regardez bien. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Akab, c'était le roi d'Israël. Pour qu'il monte à Ramos en Galaad et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. « Sors et fais ainsi, et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. » Je ne sais pas s'il faut dire « Amen », on peut dire « Amen » au texte, mais pas « Amen ». Vous comprenez, mes frères et sœurs? Si vous n'aimez, Dieu ne ment jamais. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais lorsque les gens ne veulent plus la vérité, eh bien ils choisissent en vérité le mensonge. Et le résultat, vous pourrez relire aussi dans 2 Chroniques, « Ne le cherchez pas », d'un roi, etc. Mes frères et sœurs, c'est archi grave. Parce que là, on n'est pas dans les épreuves. Vous savez, j'ai souvent parlé des bénédictions et des épreuves. Vous m'avez souvent entendu prêcher là-dessus, oui ou non? On est béni parce qu'on est ses enfants, mais comme on est ses enfants et qu'on doit faire des progrès, on est également éprouvé. C'est comme ça, c'est un cycle. On est béni, on est éprouvé. Si vous acceptez tout ça, vous grandirez. Si vous n'acceptez pas une épreuve, ben vous vous éloignerez de Dieu, parce qu'il y a toujours des épreuves. Et comme il y a des épreuves, il faut toujours qu'il y ait pardon. Voilà, si vous ne pardonnez pas, autant rétrograder de suite. C'est vrai ce que je dis ou non? Oui, c'est vrai. C'est très mal dit, mais c'est la vérité. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes déjà en rétrograde. Il faut toujours pardonner. Oui ou non? Toujours. Là, on n'est pas dans l'épreuve. L'épreuve, elle y est, c'est bien, parce qu'après, on se rend compte qu'on avait besoin de cette épreuve pour apprendre telle ou telle chose. Là, on n'est plus dans l'épreuve. On est dans le jugement. On est dans la condamnation. Et quand on en arrive là, et quand on en arrive à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à la fin, là, que ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qui ont cru au mensonge, seront condamné. C'est pour ça que c'est grave. Si ça ne nous faisait pas perdre de le salut, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que... Enfin, c'est pas grave. Le témoignage serait déplorable. Il est déplorable. Parce que les gens rentrent dans nos églises, dans les églises, et ils voient des choses complètement ridicules. ridicule. Mais là, on n'est plus dans l'épreuve, on est dans la condamnation. Et c'est la preuve, et c'est ça qui est important, que ça prépare la colère de Dieu. Et ce qui se passe sur la terre n'est plus des épreuves. Il y a les épreuves à conjuguer. Mais on est dans la préparation du jugement. Et comme le jugement commence par la maison de Dieu, ce sont les chrétiens qui doivent d'abord rendre des comptes. Le jugement, ce n'est pas forcément synonyme de condamnation. Pour les chrétiens, c'est synonyme de rendre compte. Il vaut mieux avoir mis les pendules à l'heure. Vous comprenez ? David, il a fait plein d'erreurs. Mais quand Dieu parle de lui, à la fin des livres, il est dit que c'était un homme droit et juste. Pardon ? Oui, quand Dieu parle de David, c'était un homme droit et juste. Pourquoi ? Parce que toutes les erreurs, il les a réparées. On peut se tromper, d'accord ? On peut tous se tromper, soyons honnêtes. On peut, oula, je me suis trompé. Eh bien, je me corrige. Je me suis trompé. Je croyais ça. Est-ce que c'est dans la Bible ? Non. Vous voyez, il y a une jeune fille qui est venue l'autre fois, une chrétienne. Baptisée depuis 6 ans. Je ne sais pas si elle est là, j'espère que vous êtes là. Depuis 6 ans, elle me dit, voilà, monsieur Gau, j'ai prié pour ma grand-mère. Mais c'est bien. Mais elle est morte. Ah, mais j'ai dit, mais vous n'avez jamais lu qu'il ne faut pas prier pour les morts ? Non. Elle a été super vexée. Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ? Eh oui, elle aurait dû dire, oh, pardon, je ne le ferai plus. Oui, quelqu'un, bon, elle aurait quand même pu le lire au bout de 5 ans de conversion. Il me semble qu'on peut avoir lu le Deutéronome. Mais ça vous montre cette légèreté, ce que j'évoquais dès le début. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que vous pouvez dire, oui, mais c'est ça, la doctrine des assemblées de Dieu. Ce n'est pas la doctrine des assemblées de Dieu, c'est la doctrine biblique. Ce n'est pas ma parole contre la doctrine des baptistes ou des libristes ou des protestants. C'est la parole de Dieu. Et il vaut mieux se mettre d'accord avec Dieu. Croyez-moi, d'ailleurs, vous avez entendu une prophétie ce matin. Une prophétie qui rappelait un verset de Jérémie au chapitre 23. On peut le lire, tiens. Parce que moi, quand j'écoute les prophéties, je regarde si tout ce qui est dit est biblique. Je contrôle tout, dans le sens de je veux voir si un verset. Parce qu'on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire une bêtise dans une prophétie ? Moi, je me souviens une fois, il y avait un gars qui avait dit le Seigneur, il te dit pour la dernière fois, le Seigneur, il est intègre, il te dit c'est la dernière fois qu'il t'appelle à la repentance. Et moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, moi, je crois que Dieu peut. C'est vrai que ça peut être la dernière fois si le gars il meurt ce soir. Mais je crois quand même que la patience de Dieu est notre salut. Et la façon dont ça avait été dit, ce n'était pas spirituel. Jérémie 23. Il faut faire attention que la fermeté ne se transforme pas en dureté. Mais la fermeté, elle est biblique. Après, on a vite fait de basculer, ça c'est vrai. Jérémie 23, verset 20. Ce sont des livres que vous aimez peut-être pas beaucoup lire. Vous les lisez souvent, ces livres ? Vous les lisez ? Souvent, vous lisez plus souvent les psaumes. Vous me montrerez votre Bible. Parce qu'à l'endroit où on lit le plus, les pages sont un peu plus. Je veux vérifier toutes les Bibles. Jérémie 23, verset 20. Jérémie 23, verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Regardez bien. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Vous avez entendu ce matin la prophétie ? Mais si tu connaissais le Seigneur, tu écouterais ses conseils. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est imparable. Qui aime Dieu, il écoute ses conseils. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu. Il n'est pas baptiste ou pentecôtiste, tout ça, ça ne tient pas debout. Ça ne veut rien dire. Il écoute les conseils de Dieu. S'ils avaient assisté à mon conseil. Et ceux qui sont séduits par Satan, parce que c'est ce qui se passe. Parce que quand on en arrive à accepter certaines choses, j'essaierai de vous les envoyer par Internet. Des trucs de fou, vous ne le croirez pas. Ce que des chrétiens, ils ne lisent pas la Bible, c'est sûr, sont capables d'accepter aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne supportent pas la saine doctrine. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, c'est un indice. Je vous pose la question. Est-ce que vous supportez la saine doctrine ou est-ce que ça vous énerve, la doctrine ? Est-ce que vous avez envie de me dire, là, je dis, monsieur Gau, prêchez-nous autre chose. Prêchez-nous des choses qui vont nous faire du bien. Prêchez-nous sur l'amour de Dieu, monsieur Gau, vous savez le faire. Un jour, un gars, il m'a dit, monsieur Gau, arrêtez de parler de l'enfer. Les gens, ils vont partir. Je dis, mais je ne parle pas que de l'enfer. Je parle aussi du ciel, quand même.
Est-ce que Dieu bénirait si on parlait que de l'enfer? Est-ce que Dieu bénirait si on parlait que du ciel? Non. Il faut parler du ciel et de l'enfer. Dieu bénit sa parole. Et ces choses-là nous montrent que la colère de Dieu, elle vient. Et si vous aimez la doctrine, ça c'est bon signe. Si vous pouvez dire là ce matin, oui, moi je veux la doctrine, je veux la saine doctrine. C'est écrit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça c'est important, sinon on se tournera vers les fables. Et si vous écoutez, si vous prenez soin, quand vous allez dans une église, vous devez pouvoir dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi j'étais dans une église il y a quelque temps, je ne savais pas que c'était pas cette fédération, c'était une autre fédération. Et je ne savais pas que le gars qui prêchait, c'était le président de la fédération. Puis il m'a, à la fin, il m'a salué, il m'a dit, voilà, vous êtes chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Je suis chrétien, oui, je crois en Dieu. Ah bon, vous êtes de quelle église? Ben, d'une assemblée de Dieu. Ah bon, d'une assemblée de Dieu, toujours. Oui. Vous connaissez M. Gault? Ben oui, un petit peu. Je le connais, oui, je le connais bien, on se fréquente pas mal. Ah bon, c'est moi. Ah bon, alors de suite, qu'est-ce que vous avez pensé de ma prédication? J'ai dit, vous avez fait 3 erreurs, grave. 3 erreurs. Par contre, il a bien réagi. Vous avez dit 3 erreurs. Pour moi, elles sont graves. Et dernièrement, il avait un problème, il m'a téléphoné pour me demander un conseil, voyez. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis persuadé que ceux qui cherchent, ils trouveront. Ceux qui veulent la vérité, ils seront conduits. Ceux qui aiment la vérité, ils aimeront la saine doctrine. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps archi-difficiles. Ceux qui n'ont pas pris plaisir à la parole, ils seront condamnés. Nous, ici, nous prêcherons Christ, crucifié et ressuscité. Nous prêcherons la croix, que si vous n'acceptez pas le sang de Jésus-Christ, eh bien vous serez perdus. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez aller au ciel, il vous faut passer par le calvaire. Oui, dans notre monde de iPad et de ces trucs-là, c'est moi, je ne comprends rien quand ils parlent. Les jeunes ont un iPad, un iPod, machin. Moi je fais signe de tête, oui, je ne comprends rien. Eh bien, dans notre siècle de technologie, le Seigneur Jésus sauvera les hommes par la folie de la prédication. Voilà, c'est comme ça. Et nous prêcherons Christ et nous veillerons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on termine parce que je vois que le retourne. Luc 21, voilà. Si vous voulez être prêt? Vous voulez être debout quand Jésus reviendra? Eh bien, vous allez voir la solution. C'est très simple. Le Seigneur Jésus a été très simple. C'est nous qu'on est compliqués. C'est nous qu'on se détourne de la simplicité. C'est écrit dans les Corinthiens. Luc 21, c'est archi simple. On l'a lu tout à l'heure, je l'ai soulevé parce que je vous avais dit que ça ferait partie de la conclusion. Luc 21, verset 34, jusqu'au verset 36. C'est le verset 36 que vous pouvez mémoriser et apprendre par cœur. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. C'est vrai que les soucis, ça peut nous perturber, vous les déposer. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, dont le jour où Jésus prendra l'Église, car il viendra comme un filet sur les Toulousains, c'est ça? Sur qui il viendra? Sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre, ça ne peut pas être plus clair. Donc la solution est là. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La solution, eh bien je veille. Comment je veille? Eh bien c'est ce qu'on a fait. Mais vous pouvez le faire vous-même. Demain, vous pourrez reprendre l'épître à Timothée. Ce sont des épîtres pastorales, mais ça ne fait rien. Je vais m'arrêter chaque fois qu'il y a des exhortations, des conseils. Tiens, ah, j'ai pas fait attention à ça. Etc. Veillez et priez en tout temps. Et la parole, elle est catégorique. Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance, je te garderai hors du jour de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier éprouver les habitants de la terre. Si vous gardez la parole, Dieu vous gardera. Si vous dites oui, mais c'est ce qu'il pense lui. Non, ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Des fois, on me le dit. Ça me fait de la peine. Parce que ce que je vous ai dit, c'est pas ma pensée. Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu dit. S'il y avait quelque chose qui est dans ma pensée, dites-le-moi et reprenez-moi et je m'excuserai et je demanderai pardon. Mais si c'est la parole de Dieu, vous ne vous battez pas contre un pasteur qui affirme ces choses. Vous vous battez contre Dieu. Et il vaut mieux être avec le Seigneur, croyez-moi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Le seul moyen, c'est de veiller
et de prier en tout temps. Ça va bien, je veille. Ça va pas bien, je traverse un mauvais moment. Mon couple est en difficulté. Ça fait rien, je veille. Je suis malade, je peux moins prier. Ça fait rien, je prie beaucoup moins, mais je veille. Il y a des gens, ouais, je suis malade, j'en ai marre, je comprends pas pourquoi Dieu me guérit pas, je prie plus. Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez vous préparer. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit sérieux. La piété, c'est sérieux. Il n'est pas dit travailler à votre salut avec joie et avec amour. Il est dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, c'est sérieux. C'est votre éternité qui est en jeu. C'est très joyeux. S'il y a des gens joyeux, c'est bien les chrétiens qui sont prêts. Parce que je peux vous dire que de la joie, les seules personnes qui peuvent avoir de la joie aujourd'hui, c'est les croyants.